J'avais envie, évidemment, j'ai pris plein de notes, et je vais quand même relire quelques points que j'ai notés en deux temps, par rapport à cet après-midi, par rapport à ce matin. Alors, cet après-midi, j'ai noté des choses qui me semblent être des expressions heureuses. Vous avez compris que moi, j'aime bien le short, pas one shot, mais plein de shots. Mais l'idée de concentrer les choses dans des mots, dans des choses qui soient caricaturales peut-être, ça fait réagir, mais qui essaye d'exprimer l'idée claire. Alors, j'ai noté par exemple parole équivalente, au tout début, dans les premières restitutions, je crois, de la table là-bas, ça fera. Et je trouve cette expression extrêmement heureuse. Parce qu'on va toujours parler de l'équitable, d'équité, etc. Et on s'obsède, on se fatigue, etc. Mais il n'y a pas d'équité quoi, entre quelqu'un qui a une grande culture, quelqu'un qui a peu de culture, entre quelqu'un qui a un manuel, quelqu'un qui ne l'est pas, entre quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui ne l'est pas. On ne peut pas dire... Mais par contre, équivalente, et chercher une parole équivalente, et ça recoupe sur ce que tu viens de dire, ce qui a été dit aussi avant, je crois que c'est une belle expression qui donne un enjeu très très fort, de façon très simple, en disant comment est-ce que je rends les paroles équivalentes. Quelquefois, il faut avoir des temps différents. Ce n'est pas un temps de parole équivalente qui rend équitable, pas forcément. Et c'est un peu l'exercice que nous avons fait. Vous avez bien vu qu'il y a des gens qui ont une minute, il y a des gens qui ont trois minutes, on fait des 20 minutes, et puis on a une des sessions d'une heure. Et je crois que c'est cette imbrication-là qui crée une situation où peut-être il y a plus... d'équité au final, mais parce que les paroles sont équivalentes, que celui qui est spécialiste de ceci, bah, il parle au même titre qu'un autre, que quelquefois c'est quelqu'un qui n'a aucune habitude de faire ça, qui fait la synthèse, etc. Alors voilà, moi cette notion-là m'a paru très intéressante. Ensuite, j'ai une notion vision évolutive. Alors, c'est quelqu'un a dit ce mot-là, et vision évolutive, et je trouve que ça c'est la définition même de la notion de projet pour tout le champ de l'urbanisme, de la conception architecturale, urbaine, paysagère, tout ce que vous voulez, des artistes. Projet, c'est projeter, c'est jeter en avant quelque chose. On sait où on va, mais on ne sait pas comment on y va. Et donc on doit s'adapter. Par contre, l'enjeu il est extrêmement précis, il est fixe, il est à long terme, et il ne va pas bouger. Mais par contre, comment on y va? Ben là, il faut pouvoir s'adapter, et il y a des opportunités, il y a des accidents, il y a des gens qui empêchent, il y a des obstacles, etc. L'oblique entre l'horizontal et le vertical. Voilà, il y a un architecte fameux qui s'appelle Claude Parent, qui avait inventé le plan oblique. Alors, c'était un grand moderniste, et il s'opposait au carré, au rectangle, etc. Lui, c'était le plan oblique, mais alors même des planchers étaient obliques, etc. Mais en même temps, derrière, il y a toute une théorisation, et métaphoriquement, par rapport à des écrits plus épistémologiques, plus philosophiques, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y a ces idées que vous avez répétées là, dans les synthèses finales, mais c'est revenu aussi, des essais d'usage. Alors ça, je suis extrêmement reconnaissant à la personne qui a dit ça. J'ai toujours considéré, moi j'ai été un des inventeurs, je pense vraiment pouvoir le dire, de l'usage jardin, mais en 97. Et ma plus grande fierté dans cette opération-là, ben c'est précisément celle-là, c'est qu'on a réalisé 35 jardins sans permis de construire. C'est-à-dire en échappant totalement aux règles d'urbanisme dans une ville comme Lausanne, quand même. Et en 2 ans, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation, on a fait ça. Pourquoi? Parce que j'avais gardé le titre de jardin éphémère. J'avais dit à Madame Niegui, éphémère, vous ne le retirerez jamais, sinon vous allez me demander de faire des permis. Elle en a convenu, elle a joué le jeu, et je crois que ça a été une leçon. Malheureusement, ça n'a pas été une leçon, parce que Lausanne Jardin est devenu un truc, c'est des floralies un peu améliorées, quoi. Mais alors qu'il y a une vraie leçon derrière, c'est qu'on a réalisé plein de jardins, et il y en a 3 ou 4 qui sont restés, parce qu'il était devenu inimaginable de les détruire après 3 ou 4 mois d'usage, quoi, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est ma petite fierté à moi. Mais c'est pour dire que cette histoire d'essai d'usage, moi, j'y crois énormément. Et que ça permet aussi de remettre en cause l'opposition entre l'éphémère et le durable. Et vous avez été nombreux à le dire, ou en tout cas à poser cette question-là. Éphémère, qu'est du durable? C'est déjà de la durée. Si c'est éphémère, c'est que ben, ça commence, et puis ça veut dire que ça va finir. Et voilà. Et le durable, c'est pareil, il est éphémère, parce qu'il suffit d'agrandir un peu l'échelle de temps, puis à un moment donné, on va tous mourir. Et donc, c'est un paradoxe entre l'éphémère et le durable qui renvoie aux trois tables où la question du temps a été posée comme fondamentale. De ce paradoxe entre un temps linéaire, un temps programmable, un temps qui est inscrit dans une économie formelle et dans un système politique représentatif qui a des durées, des rythmes très très longs, et un temps beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, beaucoup plus hermésien, je disais tout à l'heure, Hermès, vous savez, le dieu grec de la communication, qui est celui qui échappe. C'est le dieu des commerçants, mais c'est le dieu des voleurs aussi. C'est le dieu des chemins, et les chemins, ils conduisent, mais ils éconduisent aussi, bon, etc., etc. Et je trouve que vos métiers sont des métiers d'Hermès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une contradiction, une opposition, etc., il faut que vous trouviez des trucs pour y échapper et du coup inventer un chemin tiers. Le droit à l'erreur, quelqu'un n'a pas dit comme ça, c'est moi qui l'ai noté comme ça, mais c'est ça qu'il a dit. Et je crois que c'est fondamental par rapport aux idées d'expérimentation. Vous avez revendiqué souvent l'idée de la possibilité d'expérimenter. En France, je crois... Il y a un droit à l'expérimentation qui a été institué dans une loi, qui a fait un peu de bruit dans les milieux des urbanistes et des architectes, parce qu'au titre de l'expérimentation, on aurait droit d'échapper à certaines règles. Et vous avez énoncé ces choses-là. Je crois que c'est très intéressant, très louable, et que vous avez des métiers qui ont une pratique de cela. Parce que vous êtes très souvent dans des situations avec... je ne sais pas, des cas sociaux difficiles, des situations sociales extrêmement difficiles, etc. Vous allez déroger à la loi stricte ou à la norme. Et alors moi, j'aime bien distinguer la norme et la règle. La norme, c'est ce qui normalise. On en a bien besoin. Mais c'est la norme technique. Si les prises de courant n'étaient pas normées, on ne pourrait pas utiliser l'électricité. Mais c'est aussi la norme légale, évidemment, la loi qui... Tu appliques ça et on voit bien avec, quand on a un papier à remplir à l'administration comment ça se passe. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une part normative, c'est sûr. Mais c'est aussi la norme sociale. Et là, vous êtes dans des postures où à la fois vous devez défendre les normes sociales très très dures, vos métiers sont très codifiés, il y a des dimensions normatives, de mon point de vue extérieur, terribles, que je n'aime pas du tout quelquefois. Mais en même temps, vous avez, par les situations que vous devez traiter, vous êtes tout le temps en train d'échapper à la mode ou à la norme ou de l'adapter. Et d'en faire ce que j'appelle une règle. Au sens fort du terme, c'est de la règle. La norme normativise, la règle régule. La règle, elle doit servir à réguler. Et si les normes sont appliquées de façon absolument stricte, quelle que soit la situation, alors on passe dans un monde totalitaire. Si par contre, on peut avoir une tolérance, une marge de manœuvre pour en faire une règle, alors elle se met à réguler les choses à toutes les échelles. Bon, voilà, j'avais deux autres feuilles, mais elles sont tombées, alors elles sont trop loin, je n'arrive plus. Et je vais donc conclure. Non, je suis désolé, parce qu'il y en avait un peu pour chacun. Ça, je veille, vous avez compris, je suis assez rigoureux sur... Alors, ce n'est pas des normes, vous avez compris, c'est des règles. Et derrière règle, il y a règle du jeu derrière la règle. Hein, c'est-à-dire qu'on se donne une minute, ben c'est une règle du jeu, c'est pas une contrainte fasciste. Quoi. Je suis sous pression, etc. Oui, c'est une façon de mettre sous pression, mais pour rire. Quoi. Et je fais ça évidemment avec les étudiants, mais je crois que c'est un apprentissage qui est vraiment important et intéressant. Alors je vais conclure avec trois enjeux, deux principes et une expérience. Les trois enjeux, c'est une façon de regrouper. Alors, j'ai sorti ça un petit peu en extrapolant en temps réel ce matin par rapport surtout aux exposés, aux discussions qu'il y a eu avec les exposés. Mais avec ce qui s'est passé cet après-midi, ça se regroupe beaucoup. Et évidemment, c'est aussi lié à nos propres pratiques et à nos propres exercices. Une notion que j'aime bien, qui m'est personnelle et que je vous livre, qui est la notion de récit du lieu. Lorsque je fais du projet, je pratique beaucoup ce genre de choses. Et je dis toujours à mes collègues chers et très chers concepteurs, architectes, c'est un métier que j'adore et j'adore dessiner, et j'adore construire des choses et mettre en forme, etc. Mais nom d'une pipe, arrêtez de prendre la participation de cette manière-là et allons chercher la parole des gens. Je l'ai toujours fait implicitement avant que tous ces trucs-là existaient. Je vais sur un terrain, je fais parler, je vais au bistrot, j'entends des rumeurs, des trucs, j'essaye de comprendre avec le peu de temps que j'ai un maximum de choses. Et ce qui m'intéresse, alors là, du côté des sociologues, je m'engueule après avec eux, en disant, mais j'en ai rien à foutre de ton enquête, je ne cherche pas à avoir un échantillon représentatif pour savoir quelles sont les représentations du territoire à faire mon projet. Je veux avoir la rumeur du projet, je veux comprendre le lieu. Alors il y a ces termes d'esprit du lieu, etc., mais qui sont souvent très, très fantasmés. Mais non, c'est extrêmement concret. Et je trouve qu'il faut faire réciter le lieu. Donc je ne m'intéresse pas du tout à ce que les gens disent. Je m'intéresse à ce que le lieu raconte à travers la parole des gens. Et je pense que vous êtes dans une situation professionnelle extrêmement proche de cela. C'est-à-dire que quand vous avez à traiter des cas difficiles, des sujets, des jeunes complètement déjantés, etc., vous n'êtes pas en train de vous intéresser à ce qu'il vous dit. Vous êtes en train de vous intéresser à ce que sa situation raconte. Donc quand je dis le lieu, c'est la situation. Le site est la situation. Le lieu qui est un espace-temps, qui est un lieu où quelque chose a lieu. Avoir lieu, c'est du temps, et le lieu, c'est de l'espace. Et ce terme est de cette façon-là très très riche. Donc ça, c'est le premier enjeu, je trouve, un peu global, que je trouve à votre activité. Et vous pouvez apprendre beaucoup de choses aux architectes urbanistes et aux concepteurs par rapport à cette dimension-là. Le deuxième, c'est le petit train. C'est le petit train. Le petit train qui fait son train-train dans la campagne. Le petit train qui... Peut-être qu'il reprend campagne, qui fait campagne, comme une armée fait campagne, peut-être. Peut-être c'est le petit train qui fait le territoire, à force de cheminer, de venir, de revenir, etc. J'ai eu du train électrique, j'étais très 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 bon en train électrique quand j'étais petit, et je viens de vider une maison de collectionneur train électrique. Donc j'adore ça, mais je le convertirais en utopie opératoire. C'est-à-dire que là, c'est mon plaidoyer par rapport à l'activité des architectes et des urbanistes où je pense qu'ils peuvent contribuer à ce récit du lieu par le dessin et par une invention utopique. Je pense que vous êtes dans des situations où vous pouvez mettre en relation des éléments de programme qui sont très hétérogènes. Et alors, à la réserve près que souvent, j'ai l'impression que vos métiers sont... Vous êtes spécialisé pour les jeunes, pour les vieux, pour ceci ou pour cela, etc. Mais dans cette collection-là, dès qu'on hybride deux catégories, il y a une utopie qui émerge. Et une utopie pas au sens du fantasme, de l'utopie de la fiction, irréaliste. L'utopie, pour moi, dans le sens où je veux en parler, c'est pour ça que j'ajoute opératoire derrière, elle ne fait rêver que parce qu'elle est réaliste. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ça. On a tous les moyens techniques, tous les moyens, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, quoi ? Et pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas ? Alors, je racontais tout à l'heure en aparté que moi, j'ai fait une initiation au projet urbain à des jeunes géographes de l'Université de Lausanne. Et on a travaillé sur les Beauvais. Et on leur a fait faire 5 sur la couverture et ce problème-là, etc., où il y a une de vos maisons qui a été relatée. Et pour vous donner un exemple, les étudiants, ils voulaient faire un truc pour les enfants, parce que justement, dans la maison des associations, ils avaient raconté que je sais pas quoi, etc. Bon, ben, d'accord, oui, enfin, les vieux, c'est pas très drôle, quoi. Puis les enfants, ça va bien avec les vieux, quand même. Ben non, ben si. Ben oui, mais c'est toujours avec ma grand-mère que je parle, pas avec ma mère, ben, etc. Alors, dit, ben, on pourrait mettre les enfants et les vieux déjà ensemble, quoi. Puis peut-être c'est des deux côtés de la voie, ou peut-être on les mélange plus, ou peut-être c'est dans les étages, etc. Puis je dis, mais c'est quand même pas très drôle encore, quoi. Et puis c'était les débuts de l'Ukraine et tout ça, et puis le moment où tout le monde s'est émerveillé, parce que tout à coup on accueillait les migrants en masse, etc., alors que les Syriens, sinon avant, on en fait, etc. Donc je les sensibilise un petit peu à ça, puis je dis, mais ce serait pas mal de faire un bon bâtiment quand même, avec 2000 pièces pour des loges, pour des migrants, et puis des ateliers, des trucs pour... leur faire faire des choses, que ce ne soit pas nous qui leur apportions des trucs, mais eux qui nous apportent des trucs, et qu'on arrête de les traiter comme des handicapés ou des pauvres, ou je ne sais pas quoi. Mais comment on imagine ça, etc. Et ça a donné un EMS, un immense EMS qui faisait la couverture de trucs pour relier les deux quartiers sud et nord du truc. EMS, enfants, migrants, seniors. Et bon, vous voyez. Alors, pour moi, c'est ça, une utopie opératoire. C'est-à-dire que c'est un projet, c'est quelque chose qui prend forme, qui se dessine, qui est opératoire parce que ça peut faire l'objet d'un projet au sens classique du terme, et qui est réaliste, même si on ne sait pas le faire pour des raisons politiques, etc., etc. Troisième principe, l'espace de réserve. Dès 5 heures, j'arrête. L'espace de réserve, vous avez parlé de beaucoup de ces choses. Là, c'est à partir de l'exposé sur Fribourg, surtout, que j'ai pensé à ça. Les rez-de-chaussée, les délaissés, réinvestir l'espace public, passer du bénévolat à la professionnalisation. Enfin, toutes sortes d'enjeux comme ça, de ce type-là, qui relèvent de ce que j'appelle, moi, un espace de réserve, un espace-temps de réserve, c'est-à-dire ce plus qui échappe justement à l'espace normé, à l'espace catégorisé. Mais je vois qu'on me presse pour que je finisse. En 3 minutes encore, vous me donnez ça. Principe, deux principes. J'ai dit 3 enjeux de principe d'expérience. Deux principes, le principe d'hybridation et le principe de récurrence. Pour moi, c'est des principes fondamentaux de l'activité de projet. Vous avez énoncé, sans dire ces mots-là, ces principes sans arrêt dans la journée. Hybridation, la question des paroles. Moi, j'ai une règle du jeu quand je monte ces choses-là pour du projet. Je dis, je m'en fous du nombre de gens qu'il y a. Mais si je fais une table de 9 personnes, je veux 3 habitants, je veux 3 élus ou techniciens, et je veux 3 experts de discipline qui ont un regard. Donc, de croiser et d'équilibrer, non pas toutes les catégories de gens, mais 3 postures, 3 types de rapports au territoire. Celui qui l'habite, celui qui a un regard professionnel dessus, une expertise dessus, un architecte, un botaniste, ou un aveugle parce qu'il connaît l'environnement sonore, et celui qui a la décision, qui est le maître d'ouvrage, et qui est le politique. Et si le politique, vous arrivez à le mettre à une table, comme on l'a fait cet après-midi, je vous jure qu'il ne vous parle pas comme quand il présente un projet dans une réunion concertation, et qu'il prend la parole comme tout un chacun. Et là, on retombe sur l'idée de parole équivalente. Et puis, principe de récurrence, c'est ces paradoxes d'éphémère et du durable. C'est l'idée que lorsqu'on a fait une action, il faut en faire une autre, et que cette autre action ressaisit ce que la première action a produit. Si on fait un événement comme ça, et qu'on devait poursuivre en poursuite, dans un mois, ou dans 6 mois, ou dans un an, et peut-être il y a quelqu'un qui a montré avec des rythmes différents, etc., on organise des choses pour que ça réactive, que ça réactualise, et qu'on extrait quelque chose à chaque fois de ce qui a été dit. Et je finis là-dessus, sur l'expérience. J'espère, par le dispositif que nous avons mis en place, vous avoir fait sentir un petit peu cette expérience de circulation de la parole, etc. Et je veux dire, alors surtout pour ceux qui sont à l'université, qui enseignent ces choses et qui l'apprennent, pour moi, le boulot, il ne commence que maintenant. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a fait cet événement, tout le monde est content, j'espère. Des fois, tout le monde est content, on boit des coups, on va aller boire un coup. Mais pour moi, c'est là que le travail commence, et c'est là que très souvent, les jeunes collectifs qui nous font des marches, des tables longues, qui utilisent ces choses qui sont des façons de technique pour mettre en situation d'énonciation de parole, eh bien, il faut en extraire des choses. Il faut se donner des règles du jeu, se forcer à en extraire des choses pour que ce soit utiliser et fructifier, qu'on le fasse fructifier dans les événements successifs, etc. Et pour moi, c'est ça, non pas anticiper, mais faire évoluer, catalyser et accompagner ce qui va devenir un projet. Voilà, je m'arrête.
Merci à vous, Pascal Onfou. Et se termine ainsi cette journée avec une ouverture vers un apéritif. C'est la HETSL qui régale parce qu'on vernit le 57e cahier enjeux des territoires pour l'animation. Sous la direction d'Ulrika Ambrustrella-Tiffy, qui sera là, Karine Darbelet, Nicole Fumo-Eveco, Sylvia Garcia, Alexandre Lamblet et Yuri Tironi, que vous retrouvez tout à fait après. Enfin !